Bonjour et bienvenue à cette séance sur la religion et le nouvel leadership, le défi de passer aux actes. Je m'appelle James Cairns, je suis de la Conférence internationale des religions pour la paix et avec l'Ecumenical Advocacy Alliance, nous avons le grand plaisir d'organiser cette séance à la Conférence internationale sur le SIDA ici à Toronto. Cette séance sera une conversation sur la manière dont les communautés religieuses travaillent pour remplir les engagements formulés à la conférence de Bangkok il y a 2 ans et dans beaucoup d'autres lieux depuis une décennie et au-delà. J'ai grand plaisir de mettre la séance entre les mains de notre animatrice ce matin, Carol Gore, chroniqueuse du Toronto Star ici à Toronto. Carol, heureux de vous accueillir ici. Une annonce avant de commencer. Nos bénévoles qui portent des vestes bleues ont des fiches bleues. Si vous avez des questions que vous voulez soumettre aux membres du panel, s'il vous plaît, levez-vous la main. Ils pourront vous apporter des fiches pendant la séance. Rendu à 45-50 minutes, nous allons les recueillir, les trier et les remettre aux membres du panel pour qu'ils y répondent. Alors, voilà pour les fiches. Carole, à vous. Permettez-moi de reprendre les paroles de bienvenue de James et je veux aussi le faire en tant que Canadienne et en tant que Torontoise. J'espère que vous trouvez la conférence dans son ensemble fructueuse et enregistrante et qu'il en soit de même de cette séance. Les gens siégeant sur ce panel représentent 4 continents différents. Nous avons des intervenants musulmans, hindous et bouddhistes et de 4 courants de l'Église chrétienne. Le but de séance est de prendre le thème de la conférence « Passer aux actes » très au sérieux et d'examiner à quel point les communautés religieuses ont tenu les engagements pris il y a 2 ans à Bangkok. Nous allons regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, là où se trouvent les obstacles et ce qu'il faudrait faire pour les surmonter. Avant de présenter les conférenciers, permettez-moi d'expliquer comment cela va se dérouler. D'abord, les membres du panel vont décliner les divers engagements, les 4 engagements de Bangkok. Et pendant qu'ils le font, s'il vous plaît, notez vos questions, parce que vos questions seront le point de départ pour la deuxième partie de notre discussion. Et maintenant, je dois m'excuser de si je massacre les noms des membres du panel, mais allons-y. Et je vais demander aux panélistes de se lever. Nous avons d'abord l'évêque Mark Hansen, qui est l'évêque président de l'Église de Tulian évangélique d'Amérique et président de la Fédération luthérienne aux États-Unis. L'évêque Hansen a été élu évêque du Sénat de Saint-Paul de l'Église luthérienne aux États-Unis en 1995 et a été réélu un deuxième mandat comme évêque synodique avant son élection comme évêque président de l'ELA en 2001. Pendant qu'il servait ce synode de Saint-Paul, il a été président du Conseil des Églises du Minnesota depuis 1998 jusqu'en 2002, était président de la conférence des évêques du ECLHA. En 2003, il a été élu président de la Fédération luthérienne internationale, poste qu'il occupe concurremment avec son rôle d'évêque président. Il est au conseil exécutif du conseil exécutif du US Council of Churches. Il est l'auteur de Faithful Yet Changing the Church in Challenging Times, publié en 2002. Notre deuxième conférencier est le professeur Farid Isaac de l'Université Harvard. Il est également fondateur de Positive Muslims d'Afrique du Sud, musulmans séropositifs d'Afrique du Sud. Chirurgien sud-africain, il a été jugé au Pakistan, au Royaume-Uni et en Allemagne. Il a rédigé ou publié Quran, Religion and Pluralism, On Being a Muslim et Introduction to the Quran. Il travaille, son plus récent livre est Islam, HIV and AIDS, Reflections Based on Compassion, Responsibility and Justice. Le professeur Isaac a servi titre de commissaire pour l'égalité entre les sexes au sein du gouvernement sud-africain. Il a enseigné à plusieurs universités dans le monde, à Hambourg, au College of Union Marriage and Mary and Union Theological à New York. Il est actuellement directeur de Positive Muslims, une organisation de musulmans qui offre des services de soutien aux séropositifs de religion musulmane en Afrique du Sud. Et il est professeur invité à l'université. Nous avons également Bishnu qui est népalaise. Elle travaille dans le domaine depuis 11 ans. Elle est membre du conseil interconfession de l'Asie du Sud-Est. Nous avons également Monsieur Heath, le secrétaire général du réseau sud-africain des dirigeants ecclésiastiques vivant avec ou positivement touchés par le VIH-Sida en Afrique du Sud. Le révérend Heath est né en Namibie. À 27 ans, il a été formé à la prêtrise anglicane et a été ordonné prêtre en 1995 après être devenu séropositif en 2000. Il s'est consacré de plus en plus au dossier du VIH-Sida et en 2002, au mois de novembre, il a aidé à fonder l'Amarilla. Et il travaille plus particulièrement sur l'opprobre et la discrimination et leur élimination au sein des communautés de foi et l'aide à d'autres dirigeants ecclésiastiques pour leur permettre de représenter un espoir au sein de leur communauté et de leur pays respectif. Notre cinquième conférencier est Pramaha Bunchai Dujai, directeur du collège Chime, du collège bouddhiste Chime en Thaïlande. Il a été leader parmi les moines qui ont agi sur la question du VIH-Sida en Thaïlande. Il dirige un réseau en Thaïlande et le réseau interconfession asiatique. Il possède un doctorat en études bouddhistes. Et enfin, j'aimerais vous présenter Mademoiselle Dubche Alecho, excusez-moi, Dubche Alecho Espinal. Dubche est une formatrice populaire de République dominicaine qui intervient auprès des personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Elle est responsable des services de la mission évangélique baptiste. Et elle travaille sur le dossier des enfants aussi. Elle est membre de l'Alliance de la solidarité et elle est représentante aussi de la communauté internationale des femmes séropositives. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons aborder les quatre engagements de Bangkok. D'abord, il était question d'engager, de faire participer directement les personnes vivant avec le VIH ou touchées directement par le VIH-Sida dans la réponse à la pandémie, en accordant une importance particulière au fardeau des femmes et des filles. Dulce, nous allons vous demander de commencer. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont les communautés religieuses le font dans la région des Antilles? Dolce ne parle que l'espagnol, alors nous allons devoir procéder par interprétation. Il y a eu un petit problème d'appareil technique. Il y a eu une panne, elle va devoir se faire amener un autre récepteur. Bonjour à tous et à toutes. C'est un très grand plaisir pour moi de pouvoir partager notre expérience et mon expérience avec vous aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma participation auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans mon pays et de l'accueil que les églises leur ont réservé. Et aussi de la manière dont certains groupes ont essayé de ralentir le processus d'acceptation. Quand on pense aux fardeaux supplémentaires que doivent supporter les femmes séropositives, nous avons créé de petits ministères au sein de l'Église. Sous la congestion de membres de l'Église et de personnes vivant avec le VIH/SIDA. Et il y a un grand groupe qui nous ont bien accueillis, nous ont aidés dans notre travail. On participait à une grande campagne de sensibilisation dont des membres des dirigeants ecclésiastiques et d'autres personnes pour nous aider à faire notre travail. En ce moment, il y a 10 femmes séropositives qui ont de grands besoins. Nous faisons de l'accompagnement, nous offrons de l'aide et du soutien. Ces femmes ont besoin d'une aide affective et dans la mesure du possible, nous leur offrons une aide financière. Et nous avons des groupes d'entraide à l'intérieur des églises. Les chrétiennes séropositives avec les membres de l'église. Nous faisons un travail d'aide à domicile, surtout auprès des orphelins et des orphelines qui vivent avec leurs grands-parents. Également, à l'extérieur des églises, il y a des gens qui participent et qui nous aident et nous soutiennent dans nos activités. Et dans notre partage du travail quotidien, les visites à domicile, par exemple, et d'une certaine manière, nous faisons office de mère de ces filles, puisque les grands-parents sont, dans bien des cas, plutôt âgés, et ne sont pas capables de vaquer à toutes les responsabilités des soins et de tout ce qu'il faut donner aux enfants. Il y a un grand nombre d'églises qui ont relevé ce défi, qui font des choses. Mais il y a en même temps d'autres groupes moins nombreux qui ont de la difficulté à accepter la situation. Leur participation est moins forte. Ils aident, ils participent, mais ils sont inhibés par leur propre, la honte qui entoure cette maladie. Mais ces groupes constituent définitivement une minorité. Merci beaucoup, Dolce. Comme elle a dit, une des contraintes est d'ordre financier. Peut-être que vous parliez d'autres obstacles auxquels se sont heurtées les églises. Une des grandes difficultés auxquelles ont dû faire face les églises sur le plan de la participation directe des séropositifs dans les programmes d'intervention contre le VIH-SIDA, c'est que les églises n'ont pas regardé les réalités en face. Les personnes séropositives ne sont pas uniquement là, ils sont également là, en dedans. Et c'est un des grands obstacles qu'il faut surmonter si nous voulons aller bien au-delà de la participation des personnes séropositives pour assurer une intégration pleine et entière des personnes séropositives au programme d'intervention. En septembre 2004, le Conseil mondial des Églises a, d'une manière très proactive, décidé de travailler auprès de Amarilla, GNV+, et ICW pour élaborer des politiques en milieu de travail sur le VIH-SIDA. Et il a été très important que ce soit des personnes vivant avec le VIH qui ont travaillé à l'élaboration de ces politiques et à leur mise en œuvre au sein des églises dans le monde. Alors, il y a eu un certain nombre de choses très positives qui ont été faites, mais la majorité des églises continuent à se dire « nous servons des gens à l'extérieur ». Pas des gens qui sont membres de nos communautés. L'évêque Hansen pourrait peut-être nous parler des leçons, de certaines des leçons tirées par les communautés religieuses en essayant de tenir leurs engagements. Je pense qu'il faut regarder de très près nos attitudes et nos actes qui sont implicites dans la marginalisation et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Au lieu de leur inclusion complète. Il est intéressant de noter que la plupart des textes sacrés nous obligent à nous tenir aux côtés des personnes qui souffrent, de ressentir de la miséricorde, d'autonomiser au lieu de stigmatiser. Mais le thème de la plupart de ces textes et de nos traditions sont devenus secondaires lorsqu'il s'agit de déterminer notre réponse vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Alors, je pense qu'il faut vraiment se regarder dans l'âme et faire de la consultation et de la repentance publique. Et à partir de ce moment-là, commencer à imaginer une nouvelle réponse à partir de nos traditions respectives et de nos textes respectifs. En tant que chrétien, Jésus va toujours m'amener à me tenir aux côtés, de quelqu'un que j'aimerais peut-être mieux éviter et que je préfère stigmatiser. Mais Jésus dira, là, Dieu est présent, et si vous voulez être présent là où se trouve Dieu dans le monde, il faut être là aussi. Et c'est une forme de courage qui est nécessaire. Et donc, il y a beaucoup d'exemples dans le monde. Et notre dernière question dans cette partie-ci est celle-ci. Que faudrait-il pour aller jusqu'au bout? Et peut-être que la meilleure façon serait de faire faire un tour de table en quelque sorte, en commençant au bout et en revenant vers moi. Oui, la question n'est pas facile. Que faudrait-il pour vraiment aller jusqu'au bout, accomplir jusqu'au bout nos engagements? En fait, je ne crois pas que les communautés religieuses disposent de ce dont elles ont besoin pour y arriver. Je crois que les questions radicales qui nous interpellent, qui nous sont posées par la pandémie, eh bien, nous n'avons pas les ressources théologiques, j'entends. Une des questions, par exemple, est celle-ci. Pourquoi n'avons-nous pas fait en sorte que les personnes séropositives participaient? Les PWA, ce sont des personnes vivant avec le sida, les sida. Comment se fait-il que nous n'avons pas fait d'eux une partie intégrante de notre travail? Nous ne pouvons pas le faire, parce que quand nous faisons des sida des parties intégrantes de leur travail, nous devons reconnaître des choses gênantes. Le travail sexuel, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et ce sont là des sujets qui nous terrifient. Pour beaucoup d'entre nous, nos vies religieuses tournent autour des hiérarchies et des mécanismes de contrôle dans nos communautés. Et quand on aborde ces sujets, on entre en terrain inconnu, en eau trouble, et on perd le contrôle. Donc il faut repenser de façon radicale la nature même de nos vies religieuses. Est-ce qu'il s'agit de respecter des dogmes, des règles, des charias, ou est-ce que c'est quelque chose d'intangible, une lutte pour se rapprocher de Dieu, et une lutte pour trouver la présence de Dieu chez les plus vulnérables? Mais nos communautés religieuses sont structurées de telle sorte et obsédées par le pouvoir et l'institutionnalisation à tel point que nous n'avons pas d'autre choix que de voir les personnes vivant avec la VIH-SIDA comme des gens malades, des parias ou des objets de pitié et de compassion et de sollicitude. Mais ils seront toujours autres, ailleurs. Ce n'est qu'à partir du moment où nous nous interrogeons profondément en tant que personnes religieuses que nous pourrons en faire d'eux des partenaires à plein titre dans la transformation de leur propre vie et aussi dans la transformation de nos communautés religieuses. Donc, vous reprenez en bien des écarts les propos de JP et de l'évêque Hansen. Un degré d'ouverture qui est peut-être risqué, qui peut-être fait peur. Maintenant, Bunchoy, que faudrait-il pour inclure vraiment les personnes vivant avec le VIH et le SIDA dans nos communautés? Ben, je pense que la première chose, c'est que les dirigeants ecclésiastiques, les moines, les dirigeants au sein des églises, dans les temples, doivent être informés. Ils doivent se renseigner pour qu'ils puissent expliquer la situation aux gens, expliquer ce qui se passe. Et nous devons donner la possibilité aux femmes de remplir, de jouer des rôles de dirigeantes. peut-être de créer leur propre groupe de personnes séropositives et de se servir des locaux, temples, comme centre d'activité. Et en tant que dirigeants ecclésiastiques, nous pouvons également travailler sur la spiritualité et obtenir de l'aide au niveau local, une aide financière. Et il y a d'autres formes d'aide qui peuvent être offertes au niveau local.
Merci beaucoup, Fanchore. Et nous allons terminer notre premier engagement avec Vishnu. Qu'est-ce que ça prendrait pour véritablement inclure les gens qui ont contracté le sida dans nos communautés religieuses? Ben, du côté hindou, nous en sommes au niveau de base, et l'engagement fondamental de la part de nos dirigeants ecclésiastiques est tout d'abord d'identifier le problème, d'en parler, et aussi de donner un certain enseignement et un certain financement pour aider les gens avec le VIH. Alors, c'est ce que l'on retrouve au Népal et dans les religions hindoues. Et je trouvais que cela commence dans la religion chrétienne, mais alors que dans la religion hindoue, ce genre d'activité n'existait pas auparavant. Nous avons donc planifié, et au niveau de la population même, et il y a certains des dirigeants ecclésiastiques qui sont maintenant formés, et non seulement des dirigeants ecclésiastiques hindous, mais aussi musulmans, chrétiens, et ils ont commencé à visiter les gens chez eux, à offrir un appui psychologique, et ce genre d'activité se retrouve maintenant au Népal. Et en même temps, ce genre d'activité, d'appui, provient de dirigeants classiques d'autres religions que hindoues, qui ont la possibilité de mieux comprendre et donc de pouvoir parler de ce problème, cela à travers le pays, et aussi, dont on retrouve donc des dirigeants ecclésiastiques et qui croient que le problème du VIH ou du sida est une punition divine. Il y en a qui le croient encore. Et cela touche bien sûr les gens de leur communauté. Alors merci Vishnu. Nous allons maintenant parler du deuxième engagement. Mais avant cela, j'aimerais m'excuser du bruit provenant des salles voisines. Je ne peux rien y faire. Mais si à un moment donné, vous avez du mal à entendre un conférencier ici, vous pouvez simplement lever la main ou nous faire signe d'une façon ou d'une autre, et on essaiera d'améliorer les choses. Et également, nous avons des bénévoles qui se promènent avec des fiches afin que vous puissiez poser vos questions. Je ne pourrais pas poser toutes les bonnes questions. Il y en a qui ont des connaissances beaucoup plus approfondies et nous sommes intéressés à vos questions. Alors, le deuxième engagement pris par les dirigeants ecclésiastiques est de faire la promotion de l'enseignement sur le VIH et le sida dans les endroits de prière, lors de réunions communautaires, et de fournir une information exacte sur les façons de prévenir l'épidémie de se propager. Alors, nous allons entendre quelques exemples de la façon dont ces communautés font circuler le message. Il y a certainement au cours de quelques dernières années eu une escalation d'inquiétude de la part de la communauté musulmane sur le VIH-Sida. Nous avons vu au cours des quelques dernières réunions, au cours des deux dernières années en Indonésie, à Algérie, en Iran, à Damascus, et au Caire. Lors de ces réunions, on parlait beaucoup plus de prévention, alors qu'auparavant on parlait surtout de condamnation, et c'était une façon de réunir de toutes les mesures possibles que l'on peut adopter, même si cela a été fait prudemment. Tout ce qui a été reconnu scientifiquement et qui en même temps est parallèle au message religieux qui est l'abstention et pas de sexe hors du mariage. Alors il y a eu ce genre d'intérêt et beaucoup d'implications de la part des gouvernements dans de différents programmes. Je, par exemple au Maroc, il y en a eu, et je pense à l'Égypte également et à la Malaisie également. Et je suis aussi impliqué dans un programme de ma page, si vous voulez, pour les Nations Unies à travers le monde. Alors j'ai pu donc voir comment différents pays réagissent. Et il y a donc un intérêt accru dans les mosquées, mais pas suffisamment, je pense. Et je crois que les musulmans sont encore à l'étape une étape peu avancée. Il y a parfois de la compassion, mais ça ne nous touche pas encore profondément. Et le message est que c'est le prix de ceux qui sont tombés. Si vous êtes tombés, bon, on vous pardonnera, on s'occupera de vous. C'est notre responsabilité de ne pas vous rejeter après votre chute spirituelle, d'échéance, si vous voulez. Et si les autres ne font pas attention, ils vont également
déchoir.
Ouais. Alors donc, il y a cependant une attitude beaucoup plus douce qui se développe envers les coupables, mais la compréhension est que les gens ont péché et payent le prix, et cela demeure quand même l'image prédominante dans le monde musulman. Souvent, quand on enseigne, quand on prêche, il y a un manque d'informations exactes. Qu'est-ce qu'une information exacte? Pour certains, c'est... Bon, si vous faites ceci, vous allez aller en enfer. Pour eux, c'est une information exacte, véridique. Malheureusement, dans le monde musulman, le VIH, les programmes de prévention, et même le phénomène même du sida, est entouré de toutes sortes de théories, de conspirations, mais comme si cela ne nous arrivait pas. Et si cela nous arrive, ce sont aux musulmans qui ont péché, ou c'est simplement à cause des gens qui ont envahi notre pays, ou des immigrants, enfin les basses classes de la société. Malheureusement, ceci est encore le point de vue sous-jacent qui est transmis lors des messages. Bon, mais du côté positif, il y a eu des messages plus positifs au cours des deux dernières années. Merci bien. Alors, il y a eu du progrès, mais encore beaucoup de chemin à faire. Donc, je sais maintenant que vous pouvez peut-être nous donner la perspective bouddhiste. Il y a une communauté bouddhiste en Thaïlande où nous avons eu des programmes d'enseignement dans les temples même et lors des fêtes religieuses. Nous avons des campagnes envers les jeunes, ou même un jour ou le soir même, un soir par semaine. Et pendant l'été, les jeunes, pendant la période de vacances d'été, viennent au temple pour des camps d'été, souvent pour toutes les vacances. Et parfois, ils deviennent moines ou deviennent des novices et suivent le style de vie bouddhiste une fois à l'intérieur du monastère. Et parfois, nous avons également des gens qui vivent dans des camps. À l'hôpital des camps de VIH, Nous avons bien sûr des ailes hospitalières où les gens se retrouvent quand ils ont contracté le sida. Mais au niveau de la communauté, nous rendons visite à domicile. C'est assez courant. Et de prêcher à toutes les occasions spéciales. Récemment, nous avons eu un programme pour les étudiants moines à l'université, pour les former à leur donner une connaissance générale sur le VIH-Sida. Nous avons aussi des travaux pratiques. Nous avons, parmi les étudiants seniors, plus avancés, ces programmes-là. Et quelque chose que nous avons appris, les dirigeants ecclésiastiques, ceux qui vivent à l'intérieur des temples, les organisateurs, quand nous recevons notre formation, quand nous faisons ce travail, c'est facile. D'établir ces programmes et de distribuer les informations aux autres. Mais encore plus que cela, ce que nous avons appris, c'est que de former les jeunes est plus facile que de former les moines plus âgés. Merci. JP, peut-être qu'on pourrait vous entendre parler de la façon dont différents groupes chrétiens sont passés du jugement, de la condamnation à une aide sincère et à des informations précises, scientifiques. Bien, il y a eu une augmentation sérieuse autour du VIH et du SIDA et de l'information qui est distribuée. Il y a eu en Afrique une initiative à ce sujet. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits. Nordic Etissa est à un manuel qui existe ceci, spécifiquement en termes de l'éducation sur le SIDA. World Vision, Vision mondiale, aussi un tunnel d'espoir, un programme qui diffuse cette information. Mais que de donner plus d'informations et de prêcher encore plus n'est pas la seule réponse, parce que souvent ça peut être le mauvais enseignement. Et les mauvais renseignements qui sont distribués. Vision mondiale, dans leur programme Channels of Hope, dans les années précédentes, en Uganda, où les messages d'abstinence ont été très forts, et au mois de janvier de cette année, son sondage a démontré que 84% des pasteurs en Uganda croyaient encore que le VIH était une punition de Dieu pour avoir péché. Alors, de prêcher, d'enseigner n'est pas nécessairement la réponse. Il faut s'assurer que le contenu soit exact également. Est-ce que tu voudrais en parler également? Qu'est-ce que vous faites dans les îles des Caraïbes pour diffuser le message? L'organisation où je fais mon travail séculaire, qui est World Vision, Vision Mondiale, qui est un ONG qui travaille dans notre pays, fournit une couverture à travers le pays à ce sujet-là. puis l'Église et les leaders, les dirigeants ecclésiastiques font un très bon travail pour développer, pour conscientiser les gens en leur parlant aux enseignants dans les écoles, les différents secteurs de la société, afin de livrer ce message à tout le monde dans différentes communautés. On parle de prévention, de communication et de conscientisation en général. Et donc, ce qui est fait est que nous avons des gens qui prodiguent des soins, qui aident d'autres, qui rendent visite à domicile et qui aident les gens vivant avec le sida dans leur vie quotidienne. Et également, ils offrent un appui financier et médical avec des médicaments. On ne parle pas d'antirétroviraux, mais des médicaments en général. Et aider en termes de besoins diététiques et nutritifs. Dans les régions de mon pays où Vision Mondiale est actif, il y a des pasteurs dans des églises qui sont prêts à aller de l'avant, qui ont été préparés. Merci. Alors merci bien, et nous allons demander au Bishop Hansen de compléter cette partie du programme. Bien, simplement, ça va être assez difficile pour différentes communautés religieuses, mais il nous faut établir la différence entre communautés de formation morale, mais aussi aller dans des endroits et pouvoir enseigner des mesures sécuritaires en termes de sexualité. Et il faut que les gens reconnaissent qu'ils peuvent parler de sexualité sur nos lieux, et aussi accepter les gens qui ont contracté le VIH ou le sida et les accepter. Et en fait, on ne devrait parler que de nous tous sur un pied d'égalité. L'Église doit accepter que les gens peuvent avoir cette maladie. Alors, le troisième engagement pris à Bangkok était d'utiliser les structures offertes par les communautés religieuses pour livrer des messages de santé, d'éducation, afin d'appuyer ceux qui vivent avec le sida. Comme vous le savez, les communautés religieuses des institutions à travers le monde est une des plus grandes institutions à travers le monde, et nous voulons voir maintenant comment ils se servent de cette capacité pour promouvoir cette mission sur le sida. Alors on commence. Vishnu, au cours des deux dernières années, nous avons pu effectuer des changements dans ce domaine. Je voudrais partager avec vous une expérience que nous avons eue au Népal. Nous avons eu une session de formation pour développer un plan d'action parmi les dirigeants ecclésiastiques afin de déterminer comment ils pourraient aider comment intégrer différents éléments et promouvoir certaines activités religieuses. Et tout ce qui touche à la violence aussi sexuelle et différents aspects de santé en matière de sexualité. Alors, nous avons voulu former un plan et donc, nous voulions voir ce que disait la religion envers le sexe, le trafic de femmes, d'enfants, la violence, l'accès à la santé. Il nous faut avoir ce genre de discussion théologique. Il nous faut explorer et trouver des messages d'appui d'un aspect religieux. Parce que ces gens croient en Dieu et ils ne croient pas en ces activités. Alors, ce que Dieu dit, et si telle chose est écrite ou est dite, là, ils peuvent commencer à suivre. Alors, par exemple, sur la violence de couple ou sexuelle, il y a des gens qui maintenant travaillent là-dedans. Alors, je ne sais pas au niveau international ou national, mais dans certains districts, nous avons des projets pilotes pour faire cela. Et nous avons eu pas mal de succès. Il y a un changement d'attitude. Et en même temps, on les aide à dialoguer sur ces sujets-là. Et donc, et aussi acquérir plus de connaissances. Donc, on essaie de développer ces connaissances, ces aptitudes, plutôt que d'éduquer les gens. Si on doit les éduquer, de le faire sans jugement et de voir ce qui peut être fait au niveau social également. Alors, c'est le genre d'aide que nous voulons leur offrir. Et afin de développer leurs capacités, nous voulons les aider. Et ça a été un projet qui s'est avéré assez efficace. Et en même temps, cela ne suffit pas de soutenir ce genre d'activité dans la structure religieuse. Il nous faut continuer de les aider. Il faut faire un suivi continuellement. Et leur donner accès à des ressources afin qu'ils puissent livrer les services nécessaires. Voilà, ce sont nos nouvelles du Népal. Merci Vishnu. Où en sont les communautés religieuses? Quels sont leurs manques et quels sont les obstacles? Oui, une des choses qui est inconfortable, disons, lors de ce genre de forum ici, c'est qu'il y a toujours un musulman, un bouddhiste, etc., puis trois ou quatre représentants chrétiens, peut-être à cause de la logistique, mais ça renforce également cette vision que ces musulmans sont un groupe là-bas, mais forment un tout, tandis que parmi les chrétiens, il y a des nuances et que nous comprenons, mais les musulmans sont regroupés dans un groupe. Alors voilà, je voulais souligner qu'on reconnaît les nuances, les autres traditions sont reconnues, mais les nuances de ma propre religion ne le sont pas. Et deuxièmement, si on pense que si on est un musulman, bon, personne ne le dit, mais on est supposé représenter sa foi. Et quand on est représentatif de sa foi, surtout d'un groupe religieux, qui est acculé au mur finalement. Il faut dire de belles choses, il faut se présenter de la façon la plus claire. Et c'est inconfortable parce que je ne sais pas si je représente un côté ou un autre. Oui, je représente la justice. Je représente l'aide envers les personnes qui ont contracté le VIH et le sida. Mais est-ce que je veux vraiment représenter ce groupe que l'on appelle la communauté musulmane? Je ne suis pas sûr. Mais enfin, pour répondre à cette question, ayant dit ceci, vous pouvez parler des obstacles qu'il y a.
For people who are terminally ill, forget about
laissez faire les gens qui meurent de sida. Nous sommes mal pris entre différents mythes de notre société. On s'occupe des personnes âgées, des orphelins, mais on ne construit pas d'orphelinat. Et même si les musulmans n'ont
we are, and the reality of who we
ne sont pas supposés avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Bon, mais quand on fait face à la réalité, on parle toujours de contrôle. La charia, la loi, mais le contrôle d'hommes dans leur vision du monde et des leaders religieux. On parle d'hommes finalement dans le monde musulman et nous sommes prêts à aller de l'avant tant que ça mène au contrôle. Mais quand on parle d'automisation, là, ça devient un peu plus inconfortable. C'est en partie pourquoi l'Église fait un très bon travail à présenter, à parler de toutes les choses dont elles font pour les victimes du sida. Parce qu'il s'agit d'aider, de démontrer une certaine sympathie. Mais quand on parle de libre choix, l'Église catholique n'est pas intéressée. Quand on parle de l'utilisation de condoms, l'Église n'est pas intéressée parce que l'utilisation de condoms ou de libre arbitre, il s'agit de pouvoir prendre contrôle de sa propre vie. Et donc l'obstacle principal pour moi dans toute cette approche religieuse au sida et au VIH et la façon dont nous parlons des gens qui ont contracté le sida, c'est que toute notre structure, tout le pouvoir existant et les gens qui représentent ce pouvoir, les ecclésiastiques, donnent précédence à leur structure plutôt qu'aux vies humaines. Et là, nous sommes obligés de danser avec le pouvoir existant et de calculer toujours. Bon, alors ce truc de VIH-Sida, c'est devenu très grand. Si l'Église s'exclut de cela, nous n'allons pas pouvoir avoir l'influence que nous voulons avoir. Alors on va embarquer. En attendant, le lobby féministe et le lobby gay et tout cela, tous ces groupes qui ont fonctionné depuis des années, on leur dit, est-ce que vous pouvez, en fait, s'ils viennent à des conférences, ne pas nous mettre dans des kiosques à côté des groupes de gays ou ne pas nous mettre sur le même panel de discussion. Et tant qu'on ne comprend pas que ce ne sont que les religions prophétiques qui peuvent réagir à cette pandémie, je crois que tout notre travail avec les institutions ne servira qu'à reconfigurer la structure du pouvoir qui sont responsables de cette pandémie en premier lieu et du coup que cela a et du prix qu'ont dû payer donc les femmes surtout et les enfants. Alors, est-ce que nous avons appris des leçons en particulier à JP? Bien, je crois que quand Anrela a été fondée il y a 3 ans, qu'il était très difficile pour les 5 communautés d'accepter qu'il y avait des incidents sociaux, et encore moins les leaders religieux. Alors nous avons maintenant plus de 1500 membres en Afrique seulement, et je crois que de par la présence de notre propre existence, nous disons que le sida est réel. Je crois qu'il y a eu des leçons qui ont été apprises quant à la façon de parler de prévention. Il y a certaines agences comme l'Aide chrétienne qui ont été très proactifs pour avoir des messages de prévention inclusifs qui couvrent toute forme de transmission. Et on s'éloigne donc de messages ont une forte stigmatisation. Le programme ABC, abstinence, contrôle, etc. Bon, abstinence, bien sûr, c'est avec un grand A, c'est accepté parce qu'il n'y a pas de sexe. Mais le B est beaucoup plus petit parce qu'il y a un peu de sexe. Mais le C, on n'en parle même pas du tout, l'utilisation de condom. Alors, il faut parler, bien sûr, de la transmission de mère à enfant, d'échange de seringues, de dons de sang, Il faut parler de toutes les façons de transmettre et s'assurer que le traitement soit disponible. Parce que le traitement est une façon efficace de prévenir. Quelqu'un qui utilise, par exemple, les rétroviraux de façon efficace réduit les chances de transmission de 1 à 1000 à 500 000. Alors, beaucoup mieux que les condoms. Il faut donc parler du fait qu'il nous faut permettre aux gens de connaître leur statut, de savoir s'ils ont contracté le virus, parce que la plupart des gens, 90% des gens qui vivent avec le VIH ne le savent pas et continuent à vivre leur vie comme si rien ne se produisait. Et finalement, il faut donner un certain pouvoir aux gens pour qu'ils aient les outils, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Je crois qu'il y a des leçons qui ont été apprises. Le processus est très lent, mais je crois qu'on s'y rend petit à petit. Et Bishop Hansen, qu'est-ce que ça prendrait pour se rendre jusqu'au bout? Bien, il faut d'abord dire que nous diminuons notre capacité de travailler ensemble parce qu'il y a encore une méfiance mutuelle. J'étais en Indonésie pour une conférence littérale musulmane et il fallait simplement commencer à accepter la méfiance parce qu'ils pensaient que les chrétiens étaient là pour évangéliser et que les chrétiens pensaient qu'ils étaient là pour politiser. Alors, il faut identifier la méfiance et travailler avec. Il faut aussi reconnaître que trop souvent, les intérêts des personnels de ces groupes religieux, de ceux qui prodiguent des soins, la précédence sur la réalité de la vie des gens qui vivent dans ces communautés, leurs rituels, leurs leaders. Et donc, on veut être connu, on veut avoir notre part du marché, leur atteint, et on veut avoir plus de donateurs. Mais il faut d'abord mourir à nos propres intérêts personnels et voire plus aux intérêts des gens qui ont cette maladie. Il faut que les politiciens du monde cessent de faire du terrorisme la réalité qui nous met tous dans un état de peur et transformer les priorités du monde pour être pleinement celles de l'humanité, de la création même. Je crois que cela va être très difficile parce que nous sommes socialisés, politisés dans une culture de peur qui rend ce défi encore plus grand. Wow, ça c'est tout un défi. Le quatrième engagement qui a été pris il y a 2 ans à Bangkok est de démontrer du leadership à combattre la marginalisation, la stigmatisation de ceux qui vivent ou qui sont affectés par le VIH ou le SIDA. Et Bishop Hansen, peut-être que vous pourriez parler de votre expérience et nous parler des bonnes nouvelles.
J'ai l'impression d'avoir une autre voix. Si vous aimez ce qu'il dit, faites-lui attention. Je pourrais peut-être parler plus fort. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais insister là-dessus. Si nous voulons être sincères et mettre en œuvre des politiques pour combattre la stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant avec la VIH, etc., nous devons publiquement nous repentir de notre complicité vis-à-vis de la stigmatisation et de la marginalisation de ces personnes. Nous avons été complices par notre silence, nous avons été complices parce que nous avons prononcé des mots qui culpabilisent et nous avons posé des gestes qui culpabilisent. Nous avons perpétué des systèmes de violence sexuelle, surtout la violence contre les femmes. Nous avons été complices en omettant d'écouter et de suivre la voie tracée par les personnes vivant avec le VIH, etc. Il y a beaucoup de maladies dévastatrices qui touchent les personnes, les communautés, les paroisses, les mosquées, les temples, les églises, mais nous devons reconnaître la spécificité de la stigmatisation associée au VIH et au SIDA, et nous devons y faire face d'abord dans un esprit de repentir. Et ensuite, il faut définir, redéfinir notre capacité d'agir et de faire mieux. Il y a un fil qui nous unit, toutes les communautés dans le monde, que ce soit dans la brousse ou en banlieue d'une grande ville ou dans un petit village. Les gens se réunissent en tant que communauté religieuse pour prier, pour apprendre, pour se former à la vie, pour apprendre à vivre. Et nous devons devenir des centres dans ce monde d'éducation et d'intervention, mais des centres de promotion des droits et des centres de changement. Et nous ne sommes pas appropriés de notre capacité pleinement à ce niveau-là. Et nous avons la responsabilité de collaborer. Cela ne peut pas être quelque chose que les communautés religieuses peuvent faire seules. Nous devons être le troisième patte de ce tabouret avec la société civile dans le domaine public et le secteur public. On parle souvent du tabouret à deux pattes, mais la réponse doit avoir trois piliers. Et enfin, nous devons être beaucoup plus transparents et pour nous-mêmes et vis-à-vis de nous-mêmes et les uns des autres. J'ai fait partie d'une mission qui devait rencontrer Candice Rice pour souligner la nécessité du gouvernement Bush de remplir ses obligations vis-à-vis d'une déclaration internationale. La politique annoncée du l'administration Bush, le VIH-SIDA n'était même pas mentionné. Et nous, en tant que dirigeants ecclésiastiques, nous devons les obliger à tenir parole. Il faut donc accepter de créer des tensions au lieu de l'éliminer. Et nous devons, en tant que dirigeants, créer ces tensions si nous voulons tenir nos engagements. Merci beaucoup. Bistio, pourriez-vous nous parler de la stigmatisation au Népal et de ce que fait la communauté hindoue pour le combattre? Au Népal, nous ne pouvons pas définir les politiques au niveau national pour les institutions religieuses, mais au niveau local, il y a eu un travail de conscientisation. Nous évitons de tenir un certain langage et ou de poser des gestes vis-à-vis des personnes séropositives. Et nous devons aussi également regarder la tradition hindoue pour développer ces interventions et réagir davantage. Nous avons beaucoup de retard sur le plan des politiques nationales. Au Népal, il y a eu de grands conflits. Il y a maintenant un cessez-le-feu et les gens aux échelons supérieurs interviennent dans les politiques et ils n'accordent pas beaucoup d'importance à la question du VIH-SIDA. Et c'est triste. Quand on regarde nos dirigeants politiques et les dirigeants religieux hindous à l'échelle nationale. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je l'ai déjà dit, nous avons au moins des recherches de la Fédération hindoue sur les aspects théologiques. Ce qu'on dit aux femmes et aux filles et aux personnes vivant avec les VIH. Il y a eu un rapport dans lequel on dit que oui, que Dieu n'a jamais dit qu'il fallait marginaliser les femmes ou leur faire violence ou faire des distinctions entre les sexes. Et il ne faut pas condamner les gens qui sont dans une situation difficile. Dieu dit qu'il faut tendre la main pour aider les gens qui sont en difficulté. Alors, j'espère qu'à partir de cette recherche, nous allons pouvoir avancer et développer pour avoir plus d'influence sur les politiques au sein des institutions religieuses. Merci. Merci beaucoup. Bonne choix. Pourriez-vous nous parler un peu de la perspective de quelqu'un de votre confession et de votre partie du monde? Oui, les institutions bouddhistes ne ressemblent pas à celles des autres religions. Le bouddhisme en Thaïlande est indépendante du bouddhisme au Myanmar, au Vietnam, au Laos, au Vietnam et en Chine. À différents niveaux, au niveau des provinces en Thaïlande et même à des niveaux plus élevés, la participation des moines, des moines plus haut placés, il y a quand même une participation au programme sur le VIH-Sida. À la dernière réunion, avant la conférence internationale sur le sida à Bangkok, il y a eu une conférence bouddhiste, le dirigeant de l'organisation bouddhiste Thaï a présidé à cette pré-conférence des bouddhistes du monde entier. Et quand j'ai été au Vietnam pour rencontrer des moines vietnamiens qui travaillent sur la question, au niveau provincial, je crois que les moines sont très actifs dans le combat contre le VIH et le sida. Au Laos, les moines qui occupent des postes de plus grande responsabilité sont également engagés dans la lutte. Alors, en général, en Asie du Sud-Est, il n'y a pas beaucoup de stigmatisation ou de discrimination à l'intérieur des institutions religieuses. Merci beaucoup. Et Farid, on pourrait peut-être vous demander de clore la séance. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une véritable ouverture du genre dont l'évêque Hansen a parlé? Eh bien, je crois que dans le monde musulman, il y a deux tendances peut-être un peu opposées par rapport à l'ouverture. D'abord, je suis d'accord avec l'évêque. Et on ne peut lutter contre une pandémie comme celle-ci en disant que j'ai la meilleure réponse. Et c'est ce qui est regrettable dans la politique étrangère des États-Unis, mais c'est également les politiques américaines dans le domaine du sida. Nous allons faire à notre tête, bande à part. Ça fait partie de cette volonté d'homogénéiser en fonction des intérêts d'un pays. Alors, un groupe religieux ne peut pas dire « nous avons des réponses ». On voit dans la rhétorique religieuse de droite que la chrétienté est la réponse, ou l'islam est le droit. Et ils se ressemblent à s'y répondre. Est-ce qu'ils ont pensé s'asseoir pour voir à quel point ils ont des choses en commun? On ne peut pas faire bande à part. À l'intérieur du monde musulman, il y a deux tendances sur cette question de faire bande à part. Une tendance est dit, nous sommes acculés au mur, nous devons trouver des façons de changer les choses, d'améliorer les choses pour nous rendre plus aimables, plus acceptables. ces gens sont très puissants, si nous voulons faire affaire avec eux, si nous voulons obtenir des visas, si nous voulons les amener à investir chez nous, nous devons faire quelque chose pour être plus modérés, plus aimables. Et il y a beaucoup, beaucoup de projets dans le monde musulman, des projets de civilisation des bas, ou de civiliser les barbares, pour rendre les musulmans des sujets plus dociles. Alors, les musulmans essaient de rentrer dans ce genre de moule, mais il y a aussi beaucoup de résistance, de colère. Par rapport à l'occupation des terres de l'Islam, il y a le Liban, l'occupation de la Palestine, toute une série de choses. C'est une colère qui amène les gens à se replier sur eux-mêmes. Nous résistons et nous résistons à cette vis-à-vis du VIH-Sida en prenant le contrôle ou en exerçant un contrôle total sur nos femmes qui nous appartiennent. Il y a un plus grand climat pour la chériaïsation de nos sociétés. C'est une façon de s'immuniser contre l'Empire. Alors, ce qu'on ne peut pas gagner sur le plan économique, il n'y a rien qu'on puisse faire contre les McDonald's. Mais nous pouvons essayer de gagner sur d'autres plans. En Indonésie, par exemple, on vient d'avoir un exemple. Il y a les lois contre la porno-action, contre le fait de se tenir par la main en public ou de se donner des becs en public. Ça, d'un côté. Et la frustration que, apparemment, rien qu'on fait ne satisfait des gens qui dirigent nos villes. Désolé de terminer sur ce ton, mais pourquoi est-ce que je devrais m'excuser de terminer sur ce ton après tout? Ben, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Notre public a été très patient et très engagé. Vous avez peut-être vu ou constaté que nous avons accumulé un petit retard. Nous allons prendre une quinzaine de minutes parce que nous avons été retardés au début par des problèmes techniques. Si les gens qui veulent quitter, nous comprendrons évidemment. Mais j'ai un certain nombre de questions qui sont excellentes et j'aimerais les soumettre aux membres de notre panel. Alors pour les gens qui veulent bien rester, nous apprécierions que vous le fassiez. Voici une question fascinante. Est-ce que l'un ou l'autre des groupes religieux tendent la main vers des gens qui n'appartiennent pas à leur communauté religieuse ou qui sont sans foi ? Pour leur manifester de l'amour sans discrimination. JP, un commentaire? Je crois que la réponse brève est oui, et je ne donnerai qu'un exemple de chez nous. Quand nous avons fondé Anurala, une des premières choses que nous avons dites, c'est que nous voulions financer le réseau africain de dirigeants chrétiens qui vivaient avec le VIH-Sida. Mais en regardant de plus près, nous nous sommes dit, bon, la stigmatisation et la discrimination qui est une force que nous devons combattre n'est pas vécue uniquement par les chrétiens. Alors, même au moment de de notre fondation, il n'y avait pas des membres d'autres courant. Nous nous sommes dit qu'il faut essayer d'être plus inclusif. C'est pour ça que nous avons fondé un réseau pour les dirigeants ecclésiastiques. Ça n'a pas été facile, au contraire. Mais ça a été une des meilleures façons de nous donner une voix qui nous permet de nous exprimer dans tous les contextes. Et si on ne choisit pas de travailler avec les gens qui font partie de notre groupe à nous, il n'y a pas de réponse possible à cette question. La Fédération luthérienne mondiale est absolument engagée dans ses gestes dans la non-discrimination. tant sur le plan de l'identité des gens qui sont employés dans ces différentes communautés, mais aussi des personnes qui sont servies. Évidemment, il faut faire vérifier, mais on a des exemples partout dans le monde d'une absence de programmes qui ne font pas de discrimination et qui font participer des gens qui n'ont pas de foi et ou qui appartiennent à des groupes religieux différents. Nous allons poursuivre parce que nous avons des contraintes de temps. On savait sans doute que cette question allait être posée. Quel rôle peut-on envisager pour les institutions religieuses comme force de changement de l'approche ABC, de la prévention du sida, ABC signifiant tout sauf le condom? En fait, dans la communauté religieuse où je travaille, nous mettons l'accent sur la prévention et nous faisons la promotion de la prévention, donc des condoms. Le fait est que il y a beaucoup de choses qui échappent à notre volonté. Alors, on donne de l'information aux gens. Nous travaillons sur la prévention sans peur, sans tabou. Nous disons ce que nous pensons et nous le faisons pas uniquement avec les gens qui appartiennent à notre religion, mais aussi avec des gens qui n'appartiennent pas à notre religion, mais qui viennent nous voir parce qu'ils veulent les aider. Tout en disant qu'en tant que chrétien, nous croyons que la meilleure façon de prévenir le sida, c'est l'abstinence et la fidélité. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'avancer sur cette question? Je veux très fortement appeler une approche plus complète de la prévention. Les pratiques plus sécuritaires, le traitement, l'autonomisation ou la responsabilisation par l'éducation. Sans une approche plus complète, les messages vont être stigmatisants. Et la stigmatisation va continuer à déterminer le cours de cette pandémie. Une autre question, une question difficile, la plupart des communautés religieuses vivent une tension entre la protection et la promotion de la pureté de la communauté et la nécessité de faire preuve de compassion et d'inclusivité et de justice. Qu'est-ce qui emporte, la pureté ou la justice? Dans quelle mesure est-ce que les dirigeants ecclésiastiques peuvent-ils résoudre ces tensions? Je crois que l'idée d'une communauté pure est un mythe. Il n'y a pas de communauté pure. Nous sommes tous des êtres humains. Et les musulmans ne croient pas au péché originel. Mais nous croyons que nous péchons tous et tout. Et quand on a des communautés qui vivent en tension parce qu'ils sont porteurs de Dieu d'un côté et d'un autre côté, ils mènent inévitablement des vies immorales, comment résoudre si, évidemment, si on le réduit à une entité psychologique, on peut garder la pureté, la pureté d'une communauté blanche ou d'une communauté qui vit sur la montagne ou quelque chose comme ça. Là, on peut parler de pureté, mais la religion en elle-même est une lutte pour trouver l'humanité en nous tous par rapport au divin. C'est la lutte pour trouver la présence de Dieu dans chez les plus marginalisés. Et je m'étonne toujours qu'aucun des fondateurs de nos religions ne s'est posé la question, comment est-ce que je préserve la communauté, ou en quoi est-ce que je fais cadre avec les structures. Ils ont toujours posé la question, comment est-ce que je m'identifie aux marginalisés, et comment est-ce que je peux faire pour déranger les puissants si les puissants refuse de faire ce qui est juste. Alors nous ne sommes des communautés valables que dans la mesure où nous luttons pour nous rapprocher de Dieu et pour vivre des vies plus justes. Sinon, on est des gens qui portent du rose ou qui ont des nez longs. Ça, ce sont des accidents biologiques. Mais nos impératifs éthiques et philosophiques et théologiques sont de nous identifier aux marginalisés et de rendre la vie difficile aux puissants. Nous devons conclure. J'espère que vous allez vous joindre à moi pour remercier nos panélistes qui ont été extraordinairement francs et honnêtes. Et merci aussi à vous d'avoir été un si bon public. Et remercions Carole d'avoir si bien animé ce panel dans un contexte plutôt difficile sur le plan technique. Deux commentaires à faire. Il y a eu beaucoup de questions et je veux que vous sachiez que ces questions ne vont pas disparaître. Nous allons prendre les fiches, nous allons travailler là-dessus pour voir comment on peut les formuler pour, comme défi pour les communautés religieuses. Alors, regardez les sites web pour les religions pour la paix et l'alliance économique, parce que nous allons travailler sur ces questions difficiles. On a posé plusieurs questions pour savoir pourquoi il n'y avait pas de catholiques sur le panel, parce que la question a été posée, il faut y répondre. Nous avions prévu que le dirigeant ou la directrice d'un grand hôpital catholique du Cameroun devait venir. Elle a eu un accident et n'a pas pu venir. La personne qui la remplace a eu du mal à avoir un visa et n'arrivera que cet après-midi, paraît-il. Nous espérons que par ce panel, nous élargissons un peu notre compréhension du leadership dans la communauté en agissant de façon diversifiée pour mieux relever les défis que nous pose le sida. Merci d'être venu. Bonne conférence.